bienvenue dans cette série d'été. Cette année, chaque journaliste d'Arrêt sur Image a sa carte blanche et aujourd'hui, c'est mon tour. Et on va parler d'histoire, histoire avec un grand H. L'histoire est-elle un objet politique comme un autre? Peut-on tout récupérer dans l'histoire? Jeanne d'Arc était-elle une simple bergère? Charles Martel a-t-il vraiment repoussé une invasion musulmane à Poitiers? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, j'ai trois personnes avec moi aujourd'hui, trois invités. Merci d'être venus à tous les trois. Juste à ma gauche, Jean-Christophe Piau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes titulaire d'un DEA en histoire. Et alors, je le précise tout de suite, désolé, mais pour les moins de 40 ans, un DEA, c'est l'équivalent d'un master aujourd'hui. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Avec un grand H, publié aux éditions Nova en 2018. Vous écrivez aujourd'hui sur votre blog enmarge.org, à ne pas confondre avec En Marche. C'est pas la même chose. Et alors, vous préférez parler de popularisation de l'histoire plutôt que de vulgarisation.
Oui.
Vous trouvez que le terme est un peu galvaudé. Juste à côté de vous, Éric Anceau, bonjour.
Bonjour,
vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste du 19e siècle. Vous avez été l'auteur de plusieurs livres, dont Napoléon, l'homme qui a changé le monde, publié en 2004 chez Librio. Et vous lancez une nouvelle série, Histoire d'une nation, aux éditions Taillandier, dont le premier numéro paraîtra
à la rentrée d'octobre.
À la rentrée d'octobre.
La nation hongroise.
Très
vraiment,
bien.
Nous faisons l'actualité.
Parfait. Et je précise que vous avez aussi fait de la politique. Vous avez été plusieurs années membre de Debout la France, puis Debout la République, jusqu'à ce que le parti apporte son soutien à Marine Le Pen en 2017. Et là, vous avez raccroché les gants. Juste à côté de vous, Christophe Naudin, bonjour. Vous êtes historien, professeur dans un collège en région parisienne. Vous êtes spécialiste de l'histoire médiévale et de l'islam médiéval, notamment. Je précise que vous êtes déjà venu sur notre plateau pour un tout autre sujet, puisque vous étiez au Bataclan le soir du 13 novembre et que vous en avez fait le récit. Vous êtes co-auteur des Historiens de garde, de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, La résurgence du roman national, publié en 2013 chez Libertalia. Et puis aux mêmes éditions, on va en parler beaucoup aujourd'hui, vous avez publié Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. Alors, pour lancer cette émission, on va parler de génération identitaire. En mai dernier, le groupuscule d'extrême droite a fait l'actualité puisqu'il a été dissous par le gouvernement après des années de provocations, de discours sur les immigrés, sur la menace de l'invasion musulmane et des opérations coupe-poing. On voit les images comme l'occupation d'une mosquée à Poitiers en 2012. Si vous avez déjà entendu parler de génération identitaire, pardon, vous n'avez peut-être pas remarqué leur logo, la lettre sigma. C'est un choix qui ne repose pas uniquement sur l'amour de la lettre grecque, mais en fait, ça vient d'une autre référence historique et cinématographique. On regarde et on en discute juste après.
This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields, boys.
They look thirsty.
Well, let's give them something to drink.
To the cliff.
Voilà, alors ça, c'était 300 cartons au cinéma en 2006, plus d'1,5 million d'entrées en France. Vous avez vu, hein, on a vu la lettre sigma sur les boucliers des guerriers perses que reprend aujourd'hui Génération Identitaire. C'est une référence qu'on a vue essaimer un peu partout dans le monde, hein, aux États-Unis et également en Allemagne, dans plusieurs manifestations, notamment celle de Charlottesville, qui avait provoqué la mort d'une manifestante antifasciste. Dans ce film, en fait, on a tous les ingrédients hein, pour une bonne récupération. Des Grecs bodybuildés qui repoussent des invasions de soldats perses monstrueux. Et on ne l'a pas vu, mais on voit aussi dans le film le roi Xerxès qui est représenté efféminé, couvert de bijoux, très maniéré et qui fait à peu près 2,50 m. En termes d'orientalisation, ça se pose là. Jean-Christophe Piau, peut-être pour commencer, les 300 Spartiates comme rempart aux invasions barbares, on est dans le bon gros cliché.
Ouais, on est surtout quand même vraiment dans le bon gros fatras. C'est vrai ce que tu disais sur la récup, sur le fait qu'il y a tous les ingrédients. On a parlé de la lettre, alors c'est la lettre L en fait, c'est lambda, c'est pas sigma, parce que c'est le L de Lacédémone, le nom antique de Sparte. Mais clairement, oui, de toute façon, Sparte a toujours eu, dans les milieux de droite et d'extrême droite, une place particulière depuis vraiment longtemps. C'est comme Rome d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, pour des raisons, voilà. Il y avait effectivement ce côté rempart des Thermopyles avec le mythe des 300 Spartiates, qui était d'ailleurs pas du tout 300, mais il y avait quand même quelques autres milliers de Grecs à côté. Mais effectivement, il y avait une vraie différence d'effectifs entre l'armée perse et les armées grecques. Et cette idée, voilà, moi, ce qui me fait toujours marrer avec ce film, c'est que les Thermopyles, c'est une grosse, grosse défaite quand même. Et juste après, les armées perses rentrent en Grèce. Et c'est seulement l'année d'après à Salamine que ça commence à se rééquilibrer jusqu'à la fin de cet épisode-là. Mais ce qui est présenté comme un espèce de ce que les Anglais appellent un last stand, vraiment le truc héroïque, l'historicité de tout ça, je ne sais pas ce qu'en penseront. Moi, elle me paraît légèrement gonflée, quoi, vraiment légèrement gonflée. Et après, voilà, cette idée du rempart, effectivement, disons qu'ils ont caricaturé les deux côtés, le côté les Spartiates, voilà, effectivement, complètement surmusclés. Le roi de Sparte avait 60 ans à l'époque. Donc, bon, il y a tout effectivement une héroïsation du soldat spartiate. Et en face, effectivement, on en rajoute sur les myriades et les myriades de soldats. Le côté, effectivement, on a tous les clichés sur la caricature de ce qu'est le gay dans l'imaginaire un peu masculiniste, bien droitard. Et ça, on le retrouve effectivement, on le retrouve dans le personnage de Xerxès, qui est une espèce de caricature, quoi. Vraiment, mais... Et encore une fois, oui, qui est à la limite du monstrueux, enfin qui n'est pas à la limite, qui est monstrueux. Pareil, je crois que dans le film, il est blessé à un moment.
Oui.
Il n'a jamais été blessé, encore moins par une lance. Enfin, c'est, voilà, il y a toute une série de gros, gros hicks par rapport à ce qu'on sait de ce qui s'est vraiment passé aux Thermopyles.
Et alors justement, Christophe Naudin, qu'est-ce qui. Il y a une scène dans 300 où il repousse carrément les Perses dans la mer. C'est vrai que ça résonne un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fascine dans l'histoire de Sparte ? C'est quoi les éléments qui en font un parfait objet de récupération ?
Alors, déjà, il y a tout ce que tu as dit. C'est les guerriers très forts qui basent tout sur la virilité. Et surtout, je pense que ce qui est important pour le film, c'est le contexte dans lequel il a été fait. Il a été fait en 2006, je crois, et c'est donc quelques années après l'invasion de l'Irak. Et on est vraiment, alors même si le réalisateur s'en est défendu, c'est quand même une adaptation d'un comics de Frank Miller qui est déjà très réactionnaire. Et on est vraiment effectivement dans les clichés, ce que tu as dit. Et ça résonne avec l'actualité de l'époque où là, il y a les Grecs qui sont un peu le rempart de l'Europe contre l'invasion perse, donc à l'époque, l'Irak, etc. Et on est vraiment là-dedans. Donc il y a une héroïsation, oui, de la figure gréco-européenne, on va dire, et les clichés de l'orientalisme. Mais c'est ça qu'on en parlait juste avant, c'est, le film est intéressant à regarder au 38e degré, mais quand on y réfléchit un petit peu, moi, avec le recul, quand je l'ai vu, je n'avais pas vu tout ça au départ, et quand on réfléchit un peu sur le contexte et sur comment il a pu être pris, ça fait un petit peu peur maintenant, parce qu'on est, vraiment dans une imagerie d'extrême droite, et qui n'a pas l'air, ça on peut pas, Snyder il est un petit peu particulier comme réalisateur, mais si on regarde ses autres films à Snyder, il y a des choses parfois qui reviennent, il y a toujours l'homme un peu, l'homme nouveau, l'homme un peu surhumain, blanc en général, et voilà, donc ça résonne un petit peu avec le reste de sa filmographie, et dans ce contexte-là, c'est évidemment pas anecdotique que ce film ait été produit, soit sorti, et eu quand même aussi un certain succès, même si tous les gens qui allaient voir ne se disaient pas « j'ai l'impression qu'on vit ce qui se passe actuellement », mais ça, voilà, il y a quelque chose qui résonne beaucoup, quoi.
– Éric Anceau, Sparte, c'est une figure qui, en plus, a résonné bien plus tard, parce que Napoléon a écrit des choses à la gloire de Sparte. –
Oui, ça parle beaucoup à l'histoire de France, mais pas seulement à l'histoire de France, à la culture européenne. Je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, Snyder s'est défendu de vouloir faire un film très politique. En revanche, Frank Miller se revendiquait, lui, au moment de la BD, du choc des civilisations et de Samuel Huntington. Hein, donc là, on est tout à fait dans cette logique, et on évoque les Grecs face aux Perses, mais les Perses l'inverse, en fait, c'est l'assimilation aux Arabes. Parce qu'il y a des harems dans le film, et bien évidemment, c'est totalement anachronique. Moi, mes collègues d'histoire grecque de la Sorbonne étaient vent debout contre ce film en disant on enfile les clichés, ça ne va pas du tout, c'est pas un film historique, comme on en a eu d'autres.
Oui, parce qu'au-delà de l'interprétation qu'on peut en faire et qu'on en fait, enfin, que certains milieux en font, c'est-à-dire que le film a des éléments, en effet, sur la représentation des Perses, qui confine au racisme pur, c'est-à-dire que c'est cette vision orientalisante des femmes qui dansent, des monstres, des éléphants gigantesques qui viennent des confins du monde pour conquérir la Grèce. Vous parlez des harems géants. Est-ce que ça, c'est des éléments qui sont attestés historiquement?
Ou un renversement. Édouard Saïd, par exemple, qui a travaillé sur l'orientalisme, montre que, justement, l'arabe musulman est quelqu'un qui incarne la virilité. Et justement, alors les auteurs de la BD du film inversent complètement les choses, puisqu'effectivement, Xerxès est représenté comme une figure un petit peu féminine, comme le sont d'ailleurs les Athéniens, ces couards qui ont quitté le champ de bataille. Au contraire, les Spartiates, eux, incarnent la vraie virilité. Et, alors effectivement, c'est une défaite, hein, les Thermopyles, mais il est, dans l'imaginaire d'extrême droite, des défaites qui sont très glorieuses. Donc voilà. Nous sommes les derniers à lutter contre... On est le rempart de la civilisation.
Ce qui fait la défaite glorieuse, c'est le sacrifice.
Exactement.
C'est la mort des 300 et de leur roi au nom de la défense de leur cité.
Et oui, puis ce qui est intéressant, c'est aussi au début, quand ils montrent l'éducation des jeunes Spartiates, il n'y a aucune remise en question ou un peu du fait qu'ils se séparent des faibles, enfin, ils tuent les faibles. Il y a le jeune Léonidas qui affronte un loup quasi à main nue. Il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'affrontement avec les Perses, c'est vraiment comment sont représentés les Spartiates qui fait partie de cette imagerie-là de virilité. Et puis là, ils sont même enfin, tout le film est retravaillé numériquement, mais l'accent sur la musculature des acteurs, quand on voit des photos du tournage, c'est assez amusant. Ils sont des musculatures presque normales, on va dire. Et ils ont rajouté par-dessus du numérique pour qu'ils ressemblent vraiment à des surhommes, en fait. Mmh. C'est pas juste ils combattent sans armure, vraiment, de cette façon ostensible. Et oui, le contraste avec les Athéniens est assez amusant. Les Athéniens qui... À un moment, il y a une réplique du film, je l'ai plus exactement en tête, où il dit en gros que les Athéniens, c'est des philosophes et des homosexuels, alors qu'eux, c'est des vrais guerriers.
Je crois que c'est les philosophes qui forniquent avec des hommes, voilà, quelque chose comme ça.
Donc là, voilà, tout est dit.
Alors, justement, sur les invasions barbares, plus proches de chez nous, dans notre roman national à nous, j'allais dire. On a un personnage que vous connaissez bien, Christophe Nozan, parce que vous avez écrit un livre dessus. Alors lui est récupéré de tous les côtés. Et vous avez écrit donc Charles Martel et la bataille de Poitiers. Avant d'en parler, juste quelques images pour se rafraîchir la mémoire et voir que Charles Martel, eh bien, ça fait longtemps qu'on s'en sert en politique.
Même si le doute plane sur la date et le lieu exact de la bataille, c'est bien à quelques kilomètres de Poitiers qu'il est fait état de cette page d'histoire.
Merci Charles Martel.
En 2000, Bruno Maigret s'invite ici, en espérant donner une autre résonance à son meeting.
Les populations immigrées n'ont pas leur place dans notre pays.
On a remarqué qu'il y avait un certain nombre de tags, de peintures, de croix celtes, d'inscriptions plutôt racistes. C'est des inscriptions que malheureusement on retrouve de temps en temps. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis le temps que le site existe. De temps en temps, c'est le lieu d'expression de ces radicaux racistes qui viennent s'exprimer ici.
Pendant 3 jours, au cœur de la forêt de Moulières, ils ont tenu ici leur première université d'été.
Pourquoi le Poitou? Évidemment, parce que Poitiers est un éminent symbole de la reconquête. Poitiers, c'est bien sûr Charles Martel qui a stoppé une invasion musulmane bien connue.
La reconquête est à nous. C'est ainsi que le groupuscule d'extrême droite Tourangeau Vox Populi qualifie la commémoration en ce vendredi de la bataille de l'an 732 contre les musulmans d'Abdelrahman par Charles Martel. Le noyau dur de Vox Populi, créé en 2008, serait composé d'une vingtaine d'individus. Le 22 janvier, ils avaient réuni 70 militants lors de ce défilé nocturne en brandissant flambeaux et drapeaux royalistes.
On évoque Charles Martel parce que sur les images de Poitiers qu'on a vues tout à l'heure, de l'invasion de la mosquée par Génération d'identitaire, il y a cette date, 732, qui est la date supposée de la bataille de Poitiers, parce qu'en fait, Christophe Dodin, tout ça est très flou.
Oui, alors la majorité des historiens, on va dire aujourd'hui, a choisi 732. Il y a des débats parce que les sources arabes, si on fait la concurrence, ce serait plutôt 733, mais à la limite, c'est anecdotique, ça. Comme le lieu, effectivement, le lieu, il est important symboliquement parce qu'on ne sait pas du tout où la bataille a eu lieu. C'est sans doute entre Poitiers et Tours, plus proche de Tours. Les Anglais d'ailleurs, enfin les Anglo-Saxons parlent de bataille de Tours, pas de bataille de Poitiers. Mais le lieu, donc à Vouillé, j'y suis allé deux fois. C'est intéressant parce qu'il y a ces tags, quand je suis allé, il y avait des tags, vraiment des symboles d'extrême droite, alors que le site, c'est juste une petite plaine, et il y a une espèce de mémorial à ciel ouvert, où il y a vraiment des messages très, la bataille aussi récupérée de ce côté-là, très positif, où la bataille serait plutôt une rencontre, il y a une espèce de contre-discours d'extrême droite, où on essaie de transformer la bataille en un moment de rencontre presque pacifique. Et donc il y a des petits panneaux sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire de la bataille, mais avec un côté, en fait, ça ne s'est pas si mal passé que ça. C'est assez amusant. Mais tout ça, c'est vandalisé régulièrement, effectivement, par des identitaires. Et aussi, tous les deux ans, je crois, je ne sais pas si ça continue, mais quand on était allé, ça y était, il y a une fête sarrasine, entre guillemets, avec, où des gens viennent déguisés en sarrasin avec des dromadaires, des tentes, etc. Et nous, on a assisté à ça, c'était très bien. Et donc voilà, c'est un lieu de mémoire, comme même s'il n'était pas dans une bataille de mémoire. Et le lieu lui-même, qui n'est en plus pas le lieu vraiment de la bataille, c'est basé sur un ouvrage de deux historiens locaux des années 60. Donc, enfin, peu importe, mais ce qui est important, effectivement, c'est comment c'est récupéré. Donc il y a, comment il s'appelle, Maigret en 2000, donc avant le 11 septembre, à un moment où l'extrême droite, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un peu long, mais suite notamment à la guerre du Kosovo, c'est retourné vraiment à... Alors déjà, il y a une scission avec Maigret qui part de... Il faut qu'il trouve sa figure, on y reviendra, mais Le Pen avait Jeanne d'Arc, lui, il fallait qu'il se trouve une figure... nationaliste de son roman à lui, et donc il choisit Charles Martel, et il est vraiment inspiré, il s'en est jamais caché, il est vraiment inspiré par Huntington aussi. Et comme chez Huntington, la bataille de Poitiers fait vraiment partie, c'est quasiment la première date du fameux choc des civilisations, Maigret a décidé de la récupérer de cette façon-là. On a vu aussi des identitaires, alors il y avait ceux effectivement de génération identitaire qui sont un peu fait vraiment connaître leur coup médiatique, c'était ça, même si depuis ils ont été dissous, mais ils ont fait d'autres choses. Ils ont d'ailleurs été, je crois qu'ils ont été, ils n'ont pas été condamnés pour ça, ou il y a eu un procès, je ne me rappelle plus exactement l'issue. C'était dans une espèce d'ambiance de récupération à nouveau, de retour de Charles Martel, où il avait été un petit peu, pas oublié, mais pas mis en avant par l'extrême droite, puisqu'il y avait d'autres figures comme Jeanne d'Arc, mais aussi Clovis et d'autres. Et il faut voir que c'est vraiment l'extrême droite, enfin la droite ou l'extrême droite de l'extrême droite. C'est-à-dire que même si les Le Pen, père et fille, y ont fait allusion, quelques figures du Front National, c'est plutôt génération identitaire, les identitaires en général, sur les réseaux sociaux régulièrement, les insultes Charles Martel, etc., fleurissent. Ou aussi des gens comme très récemment Philippe de Villiers qui a considéré que Emmanuel Macron était le Charles Martel du pauvre. Donc on voit encore qu'il y a des références, mais très, très récentes. Ce qui est intéressant dans le reportage aussi, c'est qu'il parlait d'invasion musulmane. Par exemple, le type de Civitas parlait d'invasion musulmane, alors que pendant longtemps, la bataille a été considérée comme un arrêt à une invasion arabe. Donc c'est aussi lié avec le contexte où on passe d'un racisme anti-arabe, on va dire, en France, à ce qu'on appelle aujourd'hui islamophobie, même si le terme fait débat. La bataille est récupérée aussi par ce biais-là. C'est plus une bataille nationaliste qui arrête une invasion arabe étrangère, c'est une bataille... nationaliste, mais aussi religieuse. Dans l'esprit un peu torturé des identitaires, et les contre qui arrêtent des musulmans, en fait, plus des arabes, mais des musulmans. Alors, donc le glissement est important.
Cela dit, ça, c'est assez ancien quand même, parce qu'au 19e siècle, un historien anglais comme Gibbon, ou bien Chateaubriand, déjà disait ça. C'est-à-dire, on a arrêté les mahométans. À l'époque, on disait les mahométans, pas les musulmans. On arrêtait les mahométans à Poitiers en procédant à cette recomposition historique.
C'est un retour à ce discours-là, parce qu'il y a eu des... Bon, après, on n'en a pas dans le livre, mais la marche sur Martel a eu des hauts et des bas. Et Chateaubriand, en fait, lui, il voulait répondre notamment aux philosophes des Lumières, qui, eux, estimaient que, notamment Voltaire, que ça avait été un peu une malchance de perdre la bataille, de gagner la bataille de Poitiers, parce qu'on n'avait pas bénéficié des Lumières... de l'islam. Et donc Chateaubriand, lui, il mettait ça dans le prolongement des croisades. Il avait effectivement un retour au discours plutôt religieux. Mais globalement, si on prend la mémoire de la bataille de Poitiers et les récupérations, c'était plus le côté nationaliste, à part Chateaubriand, Gibbon à un autre niveau, que nationaliste, que religieux, et le religieux revient récemment dans le contexte de l'islamophobie.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a deux éléments qui vont dans ce sens-là. C'est la résistance, en fait. Hein, donc, la Troisième République, la résistance par rapport aux Allemands, et à la figure de Charles Martel au moment du roman national, on va peut-être en parler, bien connu de mon collègue Christian Amalvi. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un réseau de résistance qui s'appelle le réseau Charles Martel. Donc, c'est ça.
Hein, qui s'appelait Charles Martel. Et justement, j'allais vous dire, à la fin du XIXe siècle, c'est l'invasion prussienne qui fait peur.
Exactement.
Et il faut remobiliser face...
Tout à fait. Donc, on mobilise ces figures du passé comme Charles Martel.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a une constante qui est toujours la même. Hein. Les Thermopyles, c'est un coup d'arrêt à une déferlante supposée. À chaque fois, c'est l'idée, nous sommes les derniers des derniers, les remparts, les derniers remparts. Et on le retrouve, moi, j'habite à Lille, et juste à côté de Lille, il y a un site qui s'appelle Bouvines. Et Bouvines, c'est encore un autre temps d'arrêt où on fait face à une armée un peu composite, mais quand même essentiellement germanique. Et Bouvines a été utilisé en 1914, mais à plein par la presse, par les médias, par évidemment les politiques, pour ranimer le souvenir d'une grande résistance face à l'ennemi allemand.
Donc
à
chaque fois, les 700 ans.
Et c'était voilà, c'était 1214, ça faisait pile 700 ans. Et c'est rigolo parce qu'il y a aujourd'hui encore un énorme monument à Bouvines où les deux dates figurent, 1214-1914. Et c'est vraiment voilà, à chaque fois on réutilise
naissance de la nation, Bouvines dans l'imaginaire.
Ouais, c'est ça, c'est la naissance de la nation, c'est une bataille qui se tient un dimanche, donc Dieu choisit, etc., etc. Donc et voilà, à chaque fois, il y a aussi la composante religieuse. On est finalement défendu avec l'accord des dieux ou de Dieu. Quoi.
C'est le monument dont vous parliez à Bouvines,
c'est ça ? Exactement, ouais.
Et alors justement, ce qui est intéressant dans le cas de Charles Martel, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien si c'est une invasion qu'il a arrêtée. C'est peut-être un raid.
Oui, on ne saura jamais, en fait. Mais la plupart des historiens aujourd'hui, même s'il y a encore débat, pensent qu'c'était un raid, ça c'est sûr. Est-ce que c'était un raid qui préparait une invasion ? Comme ça a pu se passer en Espagne notamment, il y a très peu de chances parce que ça faisait déjà plusieurs années que les Sarrasins, comme on disait à l'époque, étaient en Espagne et aussi dans le Languedoc actuel à peu près vers Narbonne, Carcassonne, etc. C'était pas le premier raid et surtout c'était pas le dernier. Donc c'est pas, nous on n'est pas dans la parce que il y a eu des interprétations encore récentes là dans le lit dirigé par Patrick Boucheron, il y a l'histoire mondiale de la France. La partie sur la bataille de Poitiers est considérée comme anecdotique. Nous, on ne dit pas ça, elle n'est pas anecdotique. C'est une bataille importante, il y a des milliers d'hommes, il y a le chef musulman qui est tué, etc. Ça permet à Charles Martel de mettre vraiment un pied en Aquitaine. Donc c'est le duc d'Aquitaine, Eudes, dont on ne sait pas trop le rôle parce que les sources, justement, ne sont pas d'accord. Les sources franques, comme on dit, ne sont pas d'accord sur son rôle. Certaines le prennent pour un traître, d'autres disent qu'il a été actif. En tout cas, ce qui est un fait, c'est qu'il a... on va dire que politiquement, il a perdu, puisque Charles Martel a arrêté le raid. Donc ça, c'est important. Et ensuite, les années suivantes, notamment en 737, il va y avoir d'autres incursions sarrasines jusqu'en Provence. Et Charles Martel va à nouveau intervenir, il va à nouveau battre les Sarrasins. Et 20 ans plus tard, un peu plus, son fils, Pépin le Bref, va prendre Narbonne. Enfin voilà, il y aura d'autres incursions plus tard.
Et avant la bataille de Toulouse, en 721.
Oui, avant, il y avait... Et en fait, il y a l'effet miroir, c'est intéressant, effectivement, la bataille de Toulouse d'Aquitaine, qui est aussi récupérée par les identitaires de Toulouse. Il y a régulièrement des petites actions qui sont faites par eux par rapport au duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine, suite à 1721, était vu comme le grand vainqueur et même le pape avait célébré sa victoire. Et Charles Martel, qui était son rival, son entourage, ça leur a permis la bataille de Poitiers d'effacer ce rival de la mémoire. Et même il y a certaines sources qui confondent les deux batailles. Donc c'est aussi c'est avant tout un affrontement aussi de rivalité plus à la limite dans le monde franc que entre le monde franc et le monde sarrasin.
Il y a un énorme enjeu de mémoire parce que Charles Martel c'est le grand-père de Charlemagne et le biographe de Charlemagne Eginhard justement va mettre en avant cette victoire du grand-père, fondation de la dynastie carolingienne. Et on évoquait tout à l'heure le fait que la bataille a lieu à Vouliers sans doute et pas à Poitiers, Tours disent les Anglais. Pourquoi Poitiers? Alors là c'est un peu plus tard dans le Moyen Âge parce que au moment de la guerre de Cent Ans, on a une énorme défaite contre les Anglais à Poitiers. Et donc, il s'agit de laver cet affront par une victoire antérieure. Ce n'est pas la seule raison, mais ça a joué dans le rejeu. Donc, oui, c'est intéressant, ces enjeux de mémoire.
On parlait des constantes. Il y en a encore une que tu as évoquée, c'est le traître. Il y a toujours un traître, ou des lâches. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours l'idée que quelques hommes sortis du peuple, en plus, doivent lutter contre leur propre peuple qui trahit. C'est les Athéniens.
Dans 300, il y a le traître.
Dans 300, on a le traître lourdement handicapé qui ne peut pas combattre parce qu'il est faible et qu'il est
handicapé. Évidemment, c'est handicapé. C'est Gollum.
Et donc, c'est lui le traître.
C'est Gollum.
Comme il est handicapé, c'est un traître.
Ben oui. C'est cette idée. Très pareil, très 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 prisé que la tare physique traduit la tare morale. Ça, c'est un grand classique de l'imaginaire de l'extrême droite, mais pas que d'ailleurs, pour être honnête.
Et alors, j'ai lu que dans les années 80, le gouvernement voulait lutter contre les. On fait un bond dans le temps et technologique, contre les importations de magnétoscopes japonais. Et que donc, il avait décidé que les magnétoscopes arrivant en France devaient passer par Poitiers. Et que le nom de l'opération des douanes était 732. Voilà. On s'est aussi amusé.
Il y a même une bière 732. Hein, voilà.
On s'est aussi amusé avec les références historiques. Un autre bond dans le temps, cette fois-ci, on va évoquer quelqu'un qu'on connaît tous ou qu'on croit connaître. On lui a tout fait. Gauche, droite, extrême gauche. À tel point qu'on se demande un peu ce qu'elle peut encore nous apprendre au XXIe siècle et ce qu'elle peut représenter pour nous. Un petit rappel des épisodes précédents en images.
Vigilance, résistance, unité, tel est le message de Jeanne d'Arc.
Comment ne pas voir combien Jeanne est étrangère à toute idée de mépris ou de haine? Combien ses paroles sont à l'opposé du discours d'intolérance, de rejet, de violence que l'on ose parfois tenir en son nom?
Pour la République, Jeanne est l'incarnation des plus belles vertus françaises. Et pour la République, Jeanne est l'incarnation du patriotisme, le patriotisme qui est l'amour de son pays sans la haine des autres.
Rendre hommage à Jeanne d'Arc, qui était en même temps héroïne et sainte, quand dans le même temps on mène un mandat, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, qui est un mandat d'abandon de la souveraineté nationale, de disparition de la liberté du peuple et d'islamisation progressive de notre pays, très objectivement, il y a tout de même une incohérence.
Jeanne d'Arc, c'est elle qui finalement a forgé la nation française, puisque c'était la première fois qu'il y avait une identité nationale avant l'heure, qui avait été érigée et posée, dans laquelle finalement les combattants se sont retrouvés.
Alors, ma première question était pour vous, Éric Anceau, mais Christophe Naudin a fait une telle tête en écoutant Ségolène Royal que je suis obligé de lui demander pourquoi il a levé les yeux jusqu'au plafond.
Non, c'est ce que dit Jeanne d'Arc sur Jeanne d'Arc. Là-dessus, c'est révélateur, je ne sais pas. Ce que dit Ségolène Royal, en fait, mon cerveau a tout de suite switché. Je viens d'oublier ce qu'elle avait dit, mais c'est...
Qu'elle avait fondé la nation française.
Voilà, fondé la nation
française. Simplement.
C'est grotesque. Enfin, il y a beaucoup de débats déjà chez les historiens, on parlait de Bouvines, mais la guerre de Cent Ans aussi, et Jeanne d'Arc, son action, est-ce que c'est le moment de la naissance d'un sentiment national? Il y a encore débat là-dessus, on peut discuter, est-ce que c'est l'identification à un territoire, à un roi avec Charles VII, surtout qu'elle elle était originaire d'un territoire aux marges du royaume. Donc ça, à la limite, c'est une discussion d'historien, mais voilà, on a vu une suite d'anachronismes et de récupérations politiques, et il y en a d'autres, il y en a eu d'autres avant. Par exemple, quand il parle de Jeanne d'Arc sainte, voilà, quand on sait par qui elle a été exécutée et qu'elle a été en fait canonisée seulement au XXe siècle, elle a été à un moment récupérée par les communistes, par Vichy, il y a vraiment... Mais elle représente... c'est une femme, elle n'est pas d'origine populaire tout à fait, elle est quand même de famille de laboureurs, donc ce n'est pas des petits paysans, etc. Et puis c'est quelqu'un de très intéressant, son histoire est vraiment passionnante, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est le personnage idéal pour être récupéré. Aujourd'hui, le Front National la prend un peu, enfin le Rassemblement National, pardon, la met un peu moins en avant, mais il y a quelqu'un comme, j'en parlais tout à l'heure, comme Philippe de Villiers, qui lui... Alors, il n'y avait pas Macron dans votre reportage.
Non,
il est allé à la. Je crois qu'il était encore ministre ou en campagne.
Ouais,
je crois
oui,
qu'il
était ministre. Pas,
voilà, il est allé au fait de Jeanne d'Arc et je ne sais plus ce qu'il a sorti sur elle, mais on sentait qu'il avait.
Traditionnellement, il faut rappeler que c'est le président de la République nouvellement élu qui présidait les fêtes joanniques.
Mais là, justement, il n'était pas encore. Il s'intéresse beaucoup, voilà, c'est les images-là, il s'intéresse beaucoup à Jeanne d'Arc. Et Philippe de Villiers, donc, il y a quelques années, a racheté un anneau qu'il prétend être celui de Jeanne d'Arc. Donc les historiens, évidemment, là-dessus, ne sont pas d'accord. Mais pour lui, il le considère vraiment comme une relique. C'est-à-dire que c'est pas. Il l'a mis dans son château du parc, du Puy du Fou. Et il a écrit un livre sur Jeanne d'Arc. Voilà, donc à la limite, ces dernières années, c'est plus Philippe de Villiers que le Rassemblement national, mais c'est toujours l'extrême droite qui a récupéré cette pauvre Jeanne d'Arc.
Oui, d'ailleurs, Marine Le Pen se démarque un petit peu de la fameuse fête de Jeanne d'Arc. On peut dire un mot, c'est amusant. C'est la Troisième République qui a institué cette fête au lendemain de la canonisation de 1920. Donc il y a l'aspect consensuel, si vous voulez, gauche-droite. Et Jean-Marie Le Pen, avec son Front national, l'a récupéré, mais il a modifié la date parce que normalement, la fête de Jeanne d'Arc, c'est le deuxième dimanche du mois de mai. Et lui, il l'a placé le 1er mai pour concurrencer la fête du travail et tacler la gauche.
J'allais vous dire, dans la vie de Jeanne d'Arc, le 1er mai ne correspond à rien.
À rien.
Et donc, c'était uniquement pour...
Oui, tout à fait. Concurrencer la fête du travail.
Pour concurrencer les syndicats.
Ouais. Avoir son événement.
J'allais vous demander, Éric Anceau, Jeanne d'Arc, pour le coup, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut.
On peut
calquer tout ce qu'on veut sur elle.
Exactement. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la figure par excellence de la résistance. Là encore, une résistance qui se termine mal. On aime bien, en France, les vaincus. Hein. Mais c'est la figure de la résistance absolue. Et on évoquait tout à l'heure la Deuxième Guerre mondiale. Là encore, Charles de Gaulle fait sans cesse allusion à Jeanne d'Arc. Il y a plusieurs discours depuis Londres où il fait allusion à elle. Et le maréchal Pétain, de l'autre côté, pareil. Mais là, c'est la résistance aux Anglais. Et en 1944, quand les Anglais vont bombarder Rouen, une affiche...
On va l'avoir sur les écrans.
Très connu.
Les assassins reviennent toujours sur les lieux de crime.
Et ça, c'est les Anglais.
Parce que les Anglais ont bombardé Rouen et Jeanne d'Arc, évidemment, a été brûlée à Rouen par les Anglais.
Exactement.
Et elle a été reprise aussi à gauche, Jeanne d'Arc. On en a fait une icône populaire trahie par les puissants.
C'est exactement ça. Elle a une fulgurance. Je crois qu'elle meurt à 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a effectivement ce côté sacrifice suprême. Il y a le fait qu'on connaît très... Enfin, pour une femme du Moyen-Âge, c'est un des dossiers les mieux connus parce qu'on a son procès, le procès qui mène à sa mort, à son exécution, et le procès en révision qui se tient 25-26 ans plus tard, je crois, au même endroit. Donc c'est une vie qu'on connaît bien, c'est une personnalité qui finalement ressort à travers les minutes d'un procès, et effectivement on peut tout lui faire dire. Il y a ce côté, c'est vrai que ça n'a jamais été une petite bergère pauvre qui court pieds nus dans la colline, hein, ça faut vraiment arrêter avec ça. C'était effectivement plutôt un milieu, certes paysan, certes rural, mais relativement aisé. Mais il y a ce côté, voilà, la petite jeune fille courageuse qui se dresse. C'est pas la seule figure, il y en a plein aussi pendant la guerre de 1870, ça, des histoires comme ça de petites jeunes filles qui se dressent contre l'occupant. C'est un thème assez récurrent. Après, voilà, il y a ce sacrifice suprême, en plus sur le bûcher, c'est quand même une grande violence. Elle est brûlée comme hérétique, comme relapse, comme sorcière. Enfin, l'acte d'accusation est long comme le bras. Elle a vraiment tout. En plus, elle est saisie par, là encore, des traîtres, les bourguignons qui la vendent, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il
faut. Avant, personne ne va payer la rançon.
C'est le vieux débat pour savoir si Charles VII n'aurait pas un petit peu lâché un personnage un peu encombrant. Mais voilà, elle a effectivement tout ça. Et donc là, on a une narration qui peut être une narration de gauche. Elle est trahie par son roi, elle est trahie par l'Église. Jaurès en faisait des kilomètres à longueur de discours sur cette incarnation-là. Et puis, de l'autre côté, évidemment, dans le milieu royaliste, forcément, c'est celle qui installe Charles VII sur le trône, qui l'emmène au sacre. Enfin, tout le monde peut y trouver ce qu'on veut, en fait. C'est une trousse à outils formidable. Et moi, ce qui me fait toujours de la peine, c'est que c'est ce qui ressort de la lecture des procès, et surtout du procès 26 ans après, quand tous ses compagnons témoignent, c'est que c'est quelqu'un... qui avait du caractère, qui s'est toujours battu pied à pied, et ça fait un peu mal de l'avoir récupéré comme ça, à son corps défendant, forcément, elle ne peut pas réagir. Je trouve ça vraiment violent. Elle ne mérite pas ça, ce personnage. C'est vraiment pas.
Alors justement, je voulais vous montrer quelque chose. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, forcément, autour de la table, c'est Franck Ferrand, qui parle un peu de Jeanne d'Arc, et vous allez voir qu'il est fan du personnage.
Cette Jeanne est habitée, elle est investie, et elle incarne un certain nombre de valeurs. Ces valeurs étant le courage, d'abord et avant tout, la droiture, la pureté, une forme de fraternité et une très grande empathie. Elle ressent les souffrances autour d'elle comme si c'était ses souffrances propres. Et nous dit-on, c'est ce que dit la chronique et c'est ce que diront un certain nombre des témoins du procès de réhabilitation qui aura lieu quelques années après sa mort, elle ne pouvait entendre parler de la souffrance d'un Français sans la ressentir elle-même.
Franck Ferrand était présent justement à la cérémonie d'accueil du fameux anneau attribué à Jeanne d'Arc par Philippe de Villiers. Voilà, mais enfin, il confirme ce que tu dis sur la récupération. Après, le côté pureté, voilà, il y a aussi chez Franck Ferrand le côté catholique qu'il faut surtout pas mettre de côté dans sa vision de l'histoire.
Est-ce qu'on n'est pas aussi, et là je vais piquer chaque historien en vous, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans l'irrationnel, c'est-à-dire que on peut comprendre que Jeanne d'Arc suscite de l'amour, de l'admiration, de la dévotion même, puisque c'est une sainte catholique. Et est-ce que du coup, l'histoire ne doit pas un peu s'effacer devant les sentiments comme ça qui emportent les passions et qui sont un peu irrationnels, quoi.
Alors c'est toute la question du roman national. L'historien ne peut pas cautionner, bien évidemment, l'historien d'aujourd'hui, l'historien universitaire que je suis, le roman national. Mais le roman national en lui-même est un objet historique. Voilà, alors on peut faire après le distinguo entre roman national et récit national. Il y a une autre thématique qu'on abordera peut-être tout à l'heure avec Napoléon, c'est celle des commémorations, qu'on confond trop souvent avec les célébrations. L'historien, il a une neutralité axiologique et il regarde tout ça d'un petit peu haut. Dans ce qu'a dit Franck Ferrand ici, bon, je connais très bien Franck Ferrand et tout ce qu'on a dit, son passé politique, les milieux dans lesquels il gravite. Mais il faut faire abstraction de ça. Moi, dans les 15 secondes que j'ai eues là, je ne trouve rien à redire, parce que c'est dans les minutes du procès ce qu'il vient de dire.
Donc quand il dit que Jeanne d'Arc est empathique et qu'elle ressent la douleur de chaque Français, ça, c'est une vision un peu
empathique. Empathique, c'est ce que tu disais, ça se voit dans les témoignages. Mmh. Mais qu'elle ressent la douleur de chaque Français, déjà qu'il emploie le terme français.
Là c'est limite.
Là, on est vraiment dans la. On lui fait dire un peu ce qu'on a envie qu'elle ait pensé. Voilà. Mais c'est dans la. Le reste, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais cette conclusion-là, c'est quand même pas. Il termine par ça en plus. Donc c'est comme ce que disait Ségolène Royal sur la fondatrice de la nation. La patriote, disait Sarkozy. Ouais. Tout ça, c'est complètement anachronique. Après, oui, le roman national. Le problème de ces gens-là, ce qu'on a appelé les historiens de garde avec William et Aurore, c'est qu'il y a une confusion, en fait. C'est-à-dire que quand Franck Ferrand, sur CNews, fait chaque samedi ou dimanche, je ne sais plus, une sorte de. Il raconte l'histoire de France. Il dit pas que n'importe quoi, hein, mais derrière, il y a un discours politique qui passe, etc. Et c'est ça le souci, parce que les historiens, ce n'est pas des rabat-joie, hein, tu l'as bien dit. On peut avoir de l'empathie pour Jeanne d'Arc. Moi, je la trouve passionnante comme personnage. Charles Martel aussi, nous, on est triste. On dit, il n'a rien demandé à ce qu'il soit récupéré à temps et à travers. Donc, on a de l'empathie pour nos objets d'études. Mm-hmm. C'est encore heureux. On n'est pas dans la science froide, comme disait Laurent Deutsch. Mais où il faut faire attention, c'est justement que quand de bien montrer que c'est du roman, que certains veulent imaginer une histoire de France homogène qui a un début, peut-être une fin, en tout cas un début puis une progression comme ça, et que nous on est là a priori pour faire attention, mettre un peu de recul, sans empêcher les gens de rêver un peu aussi s'ils le veulent, mais il faut qu'ils fassent la différence. Quoi, voilà.
Pour moi, c'est la part de la fiction. Le roman national, c'est un récit simple et positif. Ça a deux belles vertus. Hein. C'est une lecture très simple. Voilà, il y a les gentils, donc là c'est Jeanne d'Arc, il y a les méchants, c'est les Anglais et les Bourguignons. Et ça, c'est très facile, c'est très agréable. Mais le personnage mérite tellement mieux, il est tellement plus complexe qu'à mon avis, le rôle de la popularisation, en l'occurrence de l'histoire, évidemment les travaux des historiens, c'est vraiment le travail sur les sources, etc. Et après, en popularisation, je pense parfaitement qu'on peut parler de Jeanne avec empathie, ça c'est notre boulot. Parce que c'est ça qui fait qu'on apprécie un personnage, qu'on va en garder quelque chose, qu'on va apprendre quelque chose. Mais on peut parfaitement faire ce travail-là en montrant la complexité d'un personnage comme Jeanne d'Arc. Encore une fois, c'est un personnage où on a tous les outils pour montrer à quel point elle est complexe.
Et j'allais dire, vous avez écrit une série sur votre blog en trois, trois parties. On admire le titre.
Oui. Il y a tellement de jeux de mots sur
le... Oui, c'est ça. On les a tous faits, je crois.
Le titre qu'aurait pu choisir Libération s'ils avaient fait leur une au lendemain du bûcher de Jeanne d'Arc. Et on sent bien que... Alors, vous n'êtes pas historien, mais en effet, vous êtes un passionné d'histoire et vous êtes ce que vous appelez un transmetteur d'histoire, on pourrait dire.
Ouais, ouais.
Et on sent bien qu'en effet, il y a de l'empathie, mais qu'en même temps... Et il y a de l'humour, parce que c'est écrit de façon très enlevée,
on essaye.
On va dire. et on sent bien que malgré tout, on apprend des choses et on reste très...
C'est le but du jeu. Après, factuel, encore une fois, voilà. Là, c'est vrai que le but d'un récit comme celui-ci, c'est effectivement de faire passer... C'est ce que j'appelle la contrebande, en fait. On va raconter raconter un truc où on essaye effectivement de faire sourire les lecteurs. Et en contrebande, donc en passager clandestin, on essaye de leur quand même de caler deux, trois choses. Et notamment, en fait, moi, si on ressort d'une série comme celle-ci en se disant « c'est un peu plus compliqué que ça », ça me va très bien. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et après, ça n'empêche pas… Jeanne d'Arc, par exemple, c'est un personnage génial dans tout le manga japonais. C'est un des plus gros cartons d'édition dans les thèmes qu'utilisent les mangas. C'est devenu un personnage de fiction qui ressemble un peu à Lady Oscar, comme on a pu la connaître quand on était môme. Elle est complètement héroïsée, ça devient un super-héros. Moi, ça me va très bien, ce Jeanne d'Arc de fiction-là. Mais c'est un Jeanne d'Arc de fiction.
Comme celle de Luc Besson, quoi. Avec une coupe au bol.
Et encore, y a ce qui est rigolo dans le film de Besson, c'est qu'il y a des choses qui sont très précises et très justes. Y a des dialogues entiers qui sont tirés du procès.
Au mot près.
Ah, au mot près. Le problème, c'est un peu tout le fatras.
C'est le reste. Le problème, c'est le reste.
Un peu...
Alors, juste pour le noter, hein, Jeanne d'Arc, c'est encore très sensible. On l'a vu il y a quelques semaines, puisque France 3 a essuyé une petite tempête. France 3 qui devait diffuser un documentaire produit par la mairie d'Orléans, en l'honneur de Jeanne d'Arc. France 3 s'est rendu compte que c'est Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, magazine d'extrême droite, qui devait faire la voix off, machine arrière de la chaîne télé publique. Charlotte Dornelas, on le voit, hein, qui avait joué Jeanne d'Arc elle-même en 2002 pendant les fêtes joanniques. Un article que vous pouvez retrouver sur un excellent site que vous connaissez peut-être, arretsurimage.net. On va ouvrir le dernier chapitre. Là, c'est du lourd. On s'attaque à Napoléon. Napoléon qui, d'ailleurs, lui aussi a convoqué Jeanne d'Arc, parce que face à l'Angleterre, il fallait bien bouter quelques Anglais et donner envie aux Français de le faire. Et Napoléon, il partage au moins ça avec Jeanne d'Arc. Tout le monde veut son morceau de l'empereur, ou presque, et on va s'en rendre compte avec ce montage signé Adèle Bello.
De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Commémorer ce bicentenaire, c'est dire cela, simplement, sereinement, sans céder jamais à la tentation du procès anachronique, qui consisterait à juger le passé avec les lois du présent.
Rendre hommage à Napoléon, qui était quand même l'apôtre d'un pouvoir fort, autoritaire, dans un moment où la démocratie est assez fragile, moi, je dis prudence.
Il faut célébrer Napoléon.
Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas célébrer Napoléon? C'est un des très grands personnages historiques. Je regrette que le président de la République le commémore à la va-vite.
Commémorer, célébrer, quand le président de la République prend la parole, c'est la même chose. Que va-t-il dire? Et moi, je dis qu'un personnage qui fait un coup de force contre la République, qui rétablit l'Empire, qui notamment va mettre en place un code civil, on va en discuter sans doute avec Arthur Chevalier, qui quand même consolide le fait que dans les relations entre l'employeur et le salarié, ben c'est l'employeur, la parole de l'employeur est plus forte que celle du salarié, qui infantilise le droit des femmes, qui rétablit l'esclavage, on peut quand même en parler.
Je ne suis pas un fan de Napoléon, là n'est pas la question, il fait partie de l'histoire nationale, il faut la prendre tout en entier.
C'est une part de l'histoire de France, c'est 15 ans de l'histoire de France. Mais moi, je vais visiter les cathédrales.
Vous avez omis de dire que c'est un personnage qui a fait passer les sociétés européennes du Moyen-Âge à la modernité. Quand il a envahi l'Espagne, il a supprimé l'Inquisition, la torture.
Ça s'est mal passé après, d'accord ?
Il a supprimé l'Inquisition. Oui. Voilà, donc voilà, et il a mis à mal toutes les vieilles monarchies tyranniques européennes.
Sans doute.
Vous pourriez le dire, ça.
Je ne peux pas m'empêcher de penser que dans l'esprit du président de la République, on verra ce qu'est son discours. Évidemment qu'il fera la part des choses, mais qu'il y a un peu de célébration, et je dirais même un peu d'auto-célébration, parce qu'on se cherche toujours des figures dans l'histoire. Bah, les miennes, ce n'est pas celle-là.
Bon, alors là, c'est génial ce qui s'est passé sur le plateau, parce que tout le monde était mort de rire pendant le sujet. Je voulais juste vous montrer autre chose avant qu'on en discute. C'est une image d'Elisabeth Moreno, qui est ministre chargée de l'égalité homme-femme, et qui, elle, a peut-être finalement trouvé la bonne position à adopter sur Napoléon.
Pour ou contre Elisabeth Moreno, la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon?
Pourquoi ça vous fait rire?
Ça vous fait rire, mais c'est parce que le sujet est délicat.
Est-ce que non, mais êtes... ça me fait sourire parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu, et en même temps, et il a rétabli l'esclavage, et en même temps, c'est un grand homme de l'histoire française. Donc, je passe. Je ne sais pas.
Voilà, panique à bord. alors, justement, je vous voyais tiquer Éric Anceau, parce qu'on entend tous les journalistes dire « célébrer Napoléon ».
Mais non, le problème est là, c'est qu'il y a une confusion sur les termes. Bien évidemment, il ne faut pas célébrer Napoléon. On ne peut pas célébrer Napoléon parce qu'il y a une face noire de Napoléon, hein, qui a été très bien évoquée d'ailleurs par certains intervenants, plutôt à gauche, il faut le dire, de l'échiquier politique. C'est-à-dire, il rétablit l'esclavage en 1802. Alors, le Code civil, il y a beaucoup de grandes choses dans le Code civil. Quand il a été placé dans beaucoup de pays européens, ça a permis d'abolir le servage, il ne faut pas l'oublier. Mais dans le Code civil, il y a le patriarcat, il y a la domination du mari sur l'épouse, du patron, on l'a dit, sur les ouvriers, donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a les guerres napoléoniennes, qui sont des guerres très très sanglantes, même si, là encore, c'est le principe de l'œuf et de la poule qui les déclare, est-ce que Napoléon ne défend pas le territoire? Et puis, Napoléon, c'est quand même le coup d'État également du 9 et d'Ibrumer, et donc c'est de 9 et 10 novembre 1799, 18 et 19 Brumaire en 8, et donc il met un terme à la République d'une certaine façon. Donc il y a cette face noire, il y a des aspects plus positifs. Commémorer n'est pas célébrer. Commémorer, c'est se souvenir ensemble de ce qui fait l'unité nationale, les côtés négatifs et les côtés positifs. Et vous avez relevé, puisque je suis sur Twitter, que je disais oui, il faut commémorer Napoléon, mais il faut commémorer, j'ai été très déçu que ça ne soit pas le cas, également la Commune. La Commune n'a pas été commémorée, sauf par Anne Hidalgo et la mairie de Paris, et l'État aurait dû endosser la commémoration de la Commune. C'est un épisode quand même très, très central dans notre histoire de France. Personne ne le niera. Et je suis un petit peu choqué. Bon, c'est un ami qui dirige France Mémoire, mais que ça n'ait pas été placé au rang des commémorations nationales par France Mémoire, très clairement.
Christophe, non, dans ce que dit Emmanuel Macron, on a tous souri au jeu de mots que chacun jugera comme il veut. De l'empereur, on a embelli les meilleurs et on a renoncé aux pires. C'est marrant parce que cette phrase elle a un double sens. On a l'impression qu'il décrit la façon dont on a enseigné Napoléon aux petits écoliers pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'on a embelli Napoléon et on a un peu occulté ce que vous appeliez justement la face noire, le rétablissement de l'esclavage, les millions de morts dans les guerres napoléoniennes.
Oui, alors au niveau de l'histoire scolaire de Napoléon, je connais moins le sujet que pour Charles Martel, mais si je prends ces dernières années, enfin les programmes de ces dernières années, on le célèbre beaucoup moins que dans les programmes de Troisième République et puis surtout après. Et même moi, j'avoue qu'il y a, il est englobé dans la Révolution, il y a tout un et il a pas tant de place que ça. Et quand dans les programmes, où il est mentionné, rien ne nous empêche justement, c'est ça qui est plutôt positif, d'aborder tous les sujets. Moi, cette année, par exemple, j'en ai parlé un peu plus avec mes élèves que les autres années, parce qu'il y avait le bicentenaire, je m'en profitais. Et j'ai essayé, je les ai fait travailler sur plein de documents, d'embrasser tout ce. Alors, je ne suis pas. Point positif, point négatif, j'essaie justement de dire aux élèves, il n'y a pas de bon, de méchant et de négatif et positif. Mais effectivement, on a essayé d'aborder tous les sujets, comment il arrive au pouvoir, sa façon de pratiquer le pouvoir, son rapport évidemment aux femmes, à la presse aussi, parce que liberté de la presse. son génie militaire, il faut le dire, même si voilà, il y a aussi des choses à dire là-dessus. Le rétablissement de l'esclavage, mais dans un tout, en fait, où ça leur permettait, a priori ça a fonctionné, ils avaient un devoir maison à faire là-dessus, de comprendre, pareil comme pour Jeanne d'Arc un peu, la complexité du personnage. Mmh. Et le souci, c'est que commémorer, célébrer, effectivement, ce n'est pas la même chose. Et que moi, je n'ai pas eu l'impression que ces commémorations, alors je n'ai pas vu les expos qui ont été faites encore, mais je n'ai pas eu l'impression que ces commémorations, y compris le discours de Macron relativement mesuré, aient permis de faire ce que doit être une commémoration, justement, le côté pédagogique, on va dire. Se souvenir aussi, mais par exemple, pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y avait évidemment un hommage aux soldats, un côté on se souvient, mais aussi beaucoup de pédagogie autour. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ça pour Napoléon. Ça s'est réduit à ce que vous avez montré en extrait, à la polémique, et avec des trucs caricaturaux des deux côtés. Et je trouve que c'est une occasion manquée, à droite comme à gauche, pour simplifier. Et c'est une polémique de plus. Et après, le choix de ne pas commémorer, quand on dit que, je crois que c'est Corbière qui a dit que c'était un choix. Que c'est pas un hasard si Macron commémore à ce point Napoléon, il y a une espèce de miroir. Mais le fait de ne pas commémorer la Commune, là pour moi c'est justement un choix politique. C'est-à-dire que commémorer Napoléon comme ça a été fait et ne pas commémorer la Commune, Là, il y a un vrai choix politique. Donc, c'est vraiment une occasion manquée. Et je trouve ça dommage parce que c'est pareil, c'est un personnage qu'il faut montrer dans sa complexité. Et on peut pas faire comme si... on peut pas le réduire à ses côtés sombres, comme on dit, et dire, voilà, on va pas parler de Napoléon parce que c'était un dictateur qui a rétabli l'esclavage et qui était misogyne. C'est pas
faire de justice. Est-ce qu'on n'est pas dans un débat un peu sémantique? Parce que pour les gens qui sont pas des spécialistes de l'histoire comme vous, commémorer, célébrer...
Ah non, c'est très différent.
On met quelqu'un problème. Au centre de l'attention.
Le très gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on décontextualise tout. Si vous voulez, on regarde avec nos yeux de 2021 des faits historiques. Vous dites qu'il est misogyne. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas plus misogyne.
Non,
pas
vous. C'est Elisabeth Moreno.
Il n'est pas plus misogyne que les gens de son temps et peut-être même plutôt moins d'une certaine façon. Il faut le savoir. La question du rétablissement de l'esclavage est très intéressante. Alors, je ne vais pas me faire l'apologiste de Napoléon sur cette affaire. Bien évidemment, c'est indéfendable. Hein, en plus, il y a eu 100 000 Noirs qui ont été massacrés à Saint-Domingue et ailleurs. Mais il ne le fait pas parce qu'il est raciste, comme je l'ai entendu sur certains plateaux. Il ne l'est pas, il ne voulait pas rétablir l'esclavage au départ. Pourquoi est-ce qu'il rétablit l'esclavage? C'est une question de géopolitique par rapport aux Anglais et une question économique. Donc il faut le savoir, il faut dire les choses. Donc moi, ce qui m'horripile, si vous voulez, voilà, c'est qu'on dit tout et n'importe quoi aujourd'hui, on décontextualise les choses. Et la Commune, encore une fois, moi j'étais très choqué parce que la Commune, c'est un grand événement patriotique. Il y a des choses terribles qui se sont produites pendant la Commune, mais des deux côtés. Hein, c'est l'une de nos grandes guerres civiles. Et en même temps, c'est le peuple de Paris qui se soulève parce qu'il ne veut pas rendre les armes aux Allemands et il refuse la capitulation.
Bah, c'est la Commune, c'est pas, il y a un côté comme ça, mais c'est aussi un projet politique. Et c'est surtout pour ça qu'elle a pas été
commémorée.
La laïcité, l'égalité homme-femme, la liberté syndicale.
Bien qu'il y ait parmi les communards des misogynes comme les Proudhoniens.
Bien sûr, mais je veux dire, c'est pas juste un événement. Réduire la Commune au patriotisme, c'est un point de départ, on va dire. Mais justement, le fait qu'elle ait été oubliée, on va dire, par le pouvoir, c'est justement parce que c'est avant tout un mouvement social et politique. Voilà.
Tout à fait. Bah, justement, je voulais vous montrer une petite image de l'un de vos confrères, Pierre Nora, qui est invité chez France Inter et qui s'exprime sur la question, mais je vois que vous connaissez déjà l'extrait.
Le bicentenaire de la mort de Napoléon et les 150 ans de la Commune de Paris, faut-il tout simplement commémorer en grande pompe ces deux événements? Quel est votre avis?
Oh ben, je vous dirais oui Napoléon, non la Commune.
Comment ça?
Si vous voulez, pour simplifier les choses, parce que Napoléon, écoutez, c'est grotesque. C'est un personnage qui a une telle dimension historique, qui a eu sur l'Europe une conséquence si positive.
Et pourquoi non à la Commune, alors?
Parce qu'elle n'a pas apporté grand-chose à la construction de la République.
Oui, c'est la République qui a écrasé la Commune.
Alors la Commune, absente de la construction de la République?
Ben non, justement, en partie, la République bourgeoise se construit contre la Commune. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu de retentissement. Mon collègue Quentin de Luy-Hermouze, il a même fait son habilitation, a montré le retentissement mondial de la Commune. Donc c'est un événement qui a été marquant. Et puis rappelons quand même que Lénine se fait enterrer dans le drapeau de la Commune.
Et puis je ne suis pas sûr que pour les Espagnols ou les Allemands, par exemple, Napoléon, ce sera le côté positif de l'Europe. Enfin, je ne sais pas, quand il dit qu'il a participé, il a eu un rôle positif pour l'Europe. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont été conquis par les armées de Napoléon partagent ce point de vue.
Certains, pas tous. Voilà,
c'est... Bah, tout à l'heure, Éric Brunet disait que Napoléon avait fait sortir l'Europe du Moyen-Âge.
Oui, voilà. Après, le pauvre Moyen-Âge, c'est pareil, lui, il faut arrêter. Il faut le laisser tranquille, le Moyen-Âge. Mais c'est, voilà, c'est Éric Brunet, il est dans la même veine que Franck Ferrand et compagnie. Donc, c'est pas étonnant.
Mais c'est pas... Napoléon, ça, mais c'est le copyright du personnage du grand homme. On en a quelques-uns comme ça dans l'histoire, voilà, des constructions comme ça. Parce que moi, je suis plutôt pour qu'il y ait une commémoration effectivement de Napoléon. Encore une fois, il y a de la complexité à aller chercher. Et ça m'intéresse beaucoup. En revanche, honnêtement, là, moi aujourd'hui, comme vulgarisateur, je ne touche pas à ça. Je n'ai pas envie parce que c'est…
– Trop sensible ?–
Je sais ce que ça va donner derrière. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop dur de trouver un juste ton, de trouver… Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, j'en ai parfois un peu ma dose des enflammades que ça peut provoquer. Et ça, c'est un sujet sur lequel… Ben non, en fait, j'ai pas envie d'y aller parce que moi, à titre personnel, je me fais mal, là. Ça va être tellement violent à essayer de faire calmement que c'est un sujet. Moi, là, j'ai pas envie. 14-18, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça, non. Là, c'est trop complexe. Trop, en l'occurrence, trop chaud, en fait.
Oui, c'est chaud, c'est exactement le terme. Ouais. C'est la polémique tout de suite. Et il y a des personnages, même Jeanne d'Arc, qui, voilà, qui est prise par l'extrême droite, etc. On arrive encore à discuter, ou Charles Martel. Mais Napoléon, pour plein de raisons qui sont dans le contexte actuel en France. Et puis moi, après, je pense que c'est pareil pour toi. Il y a aussi le côté, on a des spécialités et on ne va pas trop aller dans les domaines où on est moins spécialisé. Mais c'est un sujet chaud et on l'a vu. C'est-à-dire que pour moi, c'est un échec, les commémorations dans le côté pédagogique. C'est parce qu'il y a eu cette polémique. Et ça, c'est dommage parce que, pareil, hein, je pense que c'est évidemment quelqu'un qui est incontournable dans l'histoire de France et qu'il faut étudier comme tel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et alors justement, je voudrais vous poser une question que je vous ai déjà posée tout à l'heure sur Jeanne d'Arc, mais d'abord, je voulais vous montrer quelque chose. C'est Alain Duhamel, 81 ans, qui joue encore au petit soldat. Vous allez voir, c'est assez émouvant.
Alain Duhamel, c'est vrai que votre coup de foudre pour Napoléon remonte à vos 5 ans?
Oui, c'est vrai. Dans le jardin de mes parents, il y avait du gravier, ça permettait d'organiser des forteresses, etc. Et je reconstituais les batailles. Mais contrairement à lui, moi, j'ai gagné Waterloo un nombre de fois.
Et alors ça, vous l'avez depuis l'enfance ou...
Non, non, pas du tout. Disons que c'est un hobby.
Quelle est pour vous la plus grande réalisation culturelle de Napoléon?
Oh, je pense que sa plus grande réalisation culturelle, c'est l'accumulation d'œuvres d'art souvent remarquablement bien choisies, qu'il a par des moyens contestables, souvent légaux, hein, on ne le dit jamais. Souvent, c'était détaillé tableau après tableau dans des traités internationaux à la fin de guerre. Mais bon, il faut dire les choses comme ça, c'était une rafle aussi. Bon, la France est illuminée par les tableaux que Napoléon a...
achetés, volés.
A rapportés, disons.
Rapportés.
Voilà. Pardon. Bon, et complétés par des tableaux qu'il a lui-même suscités.
Alors là, ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression qu'avec Napoléon, d'habitude, on dit toujours « oui, c'était quelqu'un de très bien, mais… » Avec Napoléon, c'est l'inverse. On commence toujours par le négatif et puis on dit « mais quand même, à la fin, Napoléon ». Et là, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire que Napoléon a pillé la moitié de l'Europe.
Mais il y a des choses troublantes concernant Napoléon. On dit qu'il y avait des commémorations, là, un clivage gauche-droite assez prononcé, mais il y a des grandes figures de gauche qui sont fanatique de Napoléon. Laurent Geoffrin, par exemple, a écrit un livre sur les batailles napoléoniennes. Bertrand Delanoë est un très, très grand admirateur des deux empereurs, Napoléon et Napoléon III. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. Ce n'est pas le cas de son successeur, Anne Hidalgo. Donc, il y a des choses troublantes. C'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Hein.
Est-ce que, justement, on n'est pas, encore une fois, dans cet élément un peu irrationnel?
Oui, mais moi, ce qu'il dit là bah, sur les petits personnages, moi j'ai joué à des wargames quand j'étais plus jeune, des wargames papier, des vrais wargames. Même si j'étais plus Seconde Guerre mondiale, j'ai joué à quelques-uns de Napoléon et c'était génial. Il n'y a aucun problème à faire ça. Ce qu'il dit après sur les œuvres d'art, voilà, et l'exposition d'Égypte par exemple, c'est quelque chose de très intéressant à étudier. Pour le reste, voilà, on sent que ça lui fait un peu de mal, mais qu'on puisse s'amuser et rêver sur Napoléon, sur le génie militaire, reconstituer ses batailles, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai même fait Charles Martel, j'ai fait aussi, il y a un wargame qui existe, je me suis amusé à refaire la bataille. Voilà, c'est toujours le même résultat à la fin, mais pas comme pour Waterloo. Voilà, ça, c'est des choses qui... irrationnel, oui, parce que c'est un peu comme Jeanne d'Arc, il y a un côté, quand même, c'est un personnage assez extraordinaire, Napoléon, le destin qu'il a et comment il s'est fait. Il ne s'est pas fait tout seul, mais voilà, il a quand même un parcours qui est. Puis il y a la chute.
Le petit Corse monté à la capitale, voilà, qui a escaladé les grades dans l'armée.
Voilà, puis les 100 jours, et puis il y a de tout pour faire. C'est le copyright du grand homme. Donc, c'est rien que pour ça, il mérite d'être étudié et d'être popularisé quand sera effectivement moins.
Ce qui est curieux, c'est que ce genre de débat très chaud, d'habitude, ça touche plutôt, par exemple, la guerre d'Algérie, aussi un sujet très, très compliqué. D'habitude, c'est des choses plus contemporaines. Ce qui est marrant avec Napoléon, c'est que ça a quand même 200 ans de sa mort, et plus encore pour le règne. Et ça reste encore... Moi, j'ai été honnêtement très surpris de l'envergure que ça a pu prendre cette année.
Je pense qu'il y a un truc... Ça avait déjà été le cas à l'époque du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. Il y a eu le lien avec l'esclavage. Vu que c'est un sujet chaud, la traite d'esclavage et le déboulonnage des statues, Colbert, etc., on arrivait après ça, en fait, les polémiques sur les figures esclavagistes ou liées à l'esclavage qui avaient été attaquées, il y a une mémoire vive là-dessus. Et Napoléon, avec son rétablissement de l'esclavage, il a souvent été attaqué par ce biais-là, d'ailleurs, plus que par son côté autocratique, etc.
Et si je peux me permettre, c'est bien pour ça qu'en 2005, il y a eu des commémorations à minima. Hein, c'est-à-dire que Chirac, qui était très prudent, a reculé, et Villepin, qui était historien de Napoléon, n'a pas voulu aussi. Alors, Alliot-Marie voulait monter au créneau, et elle-même a reculé, elle était à l'époque ministre de la Défense. Et là, Macron, alors on ne peut pas lui retirer, il peut être horripilant par certains côtés, c'est l'homme du en même temps, on l'a bien vu avec son discours, mais voilà, il est monté au front, il a accepté la commémoration, il a accepté de jouer le jeu. Mais ce n'était pas évident, parce que pour avoir été en coulisses derrière, ça a failli ne pas se faire comme ça s'est fait. Mais ce discours qu'il a prononcé.
Et on voit que même dans les médias, et on va le voir dans le dernier extrait qu'on va diffuser, on a encore du mal à évoquer les deux faces de Napoléon. Vous allez voir que dans le documentaire de Stéphane Bern et Laurent Deutsch, c'est évoqué en 35 secondes maximum.
C'est fou quand même parce qu'aujourd'hui, Stéphane, hein, Napoléon, 200 ans après sa mort, soit on l'aime, soit on l'adore, soit on le déteste, quoi. Pourtant, il faut quand même reconnaître qu'il a fait beaucoup de choses pour la France qui sont encore valables aujourd'hui.
Il y a quand même des choses très controversées quand même dans l'héritage de Napoléon. Pardon, mais l'abolition de l'esclavage, il est revenu dessus en 1802. Mmh. Et puis ensuite, le bilan de ses conquêtes européennes et des guerres napoléoniennes, ça a du mal à passer aujourd'hui.
Il a effectivement pris une mesure qui est une faute morale et politique, à savoir le rétablissement de l'esclavage en 1802, qui lui-même avait été aboli en 1794 par une assemblée révolutionnaire. Et quant aux guerres, c'est vrai qu'il s'est laissé emporter par son hubris, sa folie de conquête, c'est incontestable, parce que c'est vrai qu'à la guerre, il était le meilleur, donc il a eu tendance à se laisser aller de ce côté-là, oui.
Mais Arthur, comment vous expliquez que ce personnage emblématique de notre histoire, qui fascine le monde entier, est aussi détesté?
C'est-à-dire que c'est vraiment les débuts de la République, Napoléon. On a du mal à lire son règne sans avoir notre modernité dans les yeux. L'Empire était vraiment une monarchie, qui avait vraiment encore des privilèges, il y avait encore une forme autocratique. Donc quand on regarde du point de vue de notre démocratie libérale, c'est évidemment inférieur en termes de sophistication démocratique. Mais c'était une autre époque. Donc il faut nuancer tout ça.
On a tout ce qu'on a dit. Hein. On a un résumé parfait de tout ce que vous venez de dire. Mais quand on fait un documentaire comme ça, Eric Anceau, si vous deviez en faire un, on a toujours l'impression que c'est une heure de gloire une minute de honte.
Le gros problème, c'est que quand on fait une émission de Stéphane Bern, et j'en ai fait beaucoup, on vous enregistre pendant 2 heures, et à l'arrivée, vous ne restez qu'un quart d'heure à l'antenne, et voilà, c'est tronqué. Donc c'est un peu Stéphane Bern et ses réalisateurs qui orientent un peu les choses. Et comme vous le disiez, j'ai vu cette émission. Hein, donc il y a un regard critique, mais un regard critique qui dure 30 secondes sur une émission.
Parce que c'est un montage, évidemment, mais pour le coup, la séquence ne dure pas plus d'une minute trente. C'est vraiment ça. Et du coup, vous, quelle place vous accorderiez à tout ça? Comment on tranche? On fait moitié-moitié,
Moi, je le fais parce que je pars du principe, et vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il faut populariser, on va dire, l'histoire. Et donc, à partir du moment où les historiens sont sérieux, même quand ils sont un peu instrumentalisés, allons-y. Simplement, il faut savoir où on met les pieds, c'est très clair. J'ai des collègues qui refusent formellement à la Sorbonne de faire ce genre d'émission. Ah oui, tout à fait.
Oui, ça, c'est un grand débat qu'on a eu avec certains collègues. Par exemple, les anciennes émissions de Franck Ferrand étaient très connues pour ça, encore plus pour prendre une caution et puis après, pas l'effacer au montage, mais la réduire portion congrue. Mais quand même, je dirais, les connaissant un peu les deux personnages, ils ont progressé. C'est-à-dire que, ok, c'est pas suffisant. Et puis, moi, je suis pas pour le 50-50, il faut juste parler de tout. Mais le fait qu'ils aient fait ça, ça n'a pas toujours été le cas dans les émissions de l'un et encore plus de Laurent Deutsch. C'était par exemple quand Laurent Deutsch parlait de la Révolution française, c'était l'apocalypse. Hein, et ils ne mettaient pas le petit truc qu'ils ont apporté telle ou telle chose. Là, on a l'impression qu'ils mettent, c'est le dernier mot, ils mettent un peu de nuance. Alors c'est clair, c'est une minute, mais je trouve que c'est quand même, par rapport à ce genre d'émission, je me dis que c'est pas. Évidemment, j'aimerais que ce soit autre chose, mais voilà. Venant d'eux, c'est plutôt positif. Il y a un petit progrès, voilà. Mais bon, il faut savoir que ces émissions-là ne sont pas hyper regardées non plus, hein. Ouais. Pas autant qu'on pourrait penser.
Là, c'est votre métier.
Oui.
Ça pourrait être.
Mais
vous.
Alors, en l'occurrence, c'est pas un média que je maîtrise et je sais à quel point c'est complexe de faire un objet comme ça. C'est vrai qu'on coupe énormément. Je suis le premier que ça agace quand je vois effectivement des historiens qui se retrouvent avec trois phrases complètement sorties d'un développement long. C'est le jeu. Il y a un effet montage, il y a un effet. C'est un objet télévisuel. Il faut que ça. Enfin, c'est pas ici que je vais l'apprendre. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment une façon de vulgariser. Qui n'est pas ma préférée, l'écran. Je trouve, en tout cas, le format, émission de télévision sur 2 ou 3 heures, C'est pas, je trouve que c'est pas ce qui permet justement de montrer de la complexité. Je crois que c'est pas le bon média pour ça en fait. Peut-être que les nouveaux médias comme YouTube permettent ça davantage. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, Eric Ansou. Mais moi voilà.
Les étudiants ont dit là pendant le confinement, faut vous mettiez à YouTube. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube, mais j'ai pas votre succès. Hein. Moi je l'ai visionné quelques centaines de fois seulement.
Mais là, quand on a écrit les Historiens de Garde, il y avait très peu justement d'historiens,
de youtubeurs histoire,
youtubeurs, ouais. Et il y en a plein depuis, ouais. Et après il y a de tout, mais c'est quand même pour moi, et de plus en plus en fait, ce qu'au début on regardait ça, quand on a fait la première postface du livre, on a commencé à en parler, ouais. Mais depuis je trouve que ça a encore plus progressé, et que, alors pas seulement YouTube, hein, aussi les sites internet, les blogs, etc. Le seul truc où il faut faire attention, c'est Twitter, c'est... je tombe régulièrement dans le piège, mais on a des collègues historiens et historiennes qui vont commenter l'actualité directement avec en reprenant des en faisant allusion à l'histoire. C'était le cas pour Napoléon, pour la Commune, pour plein de choses. Et parfois on tombe dans le piège en fait du commentaire immédiat de l'actualité politique en utilisant l'histoire, parfois sans être spécialiste de la période. Donc faut faire attention à l'outil. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que Internet en général... Après, j'en ai déjà parlé sur d'autres plateaux. On était allé chez Acrimed notamment pour en parler. Moi, je n'arrive pas à voir ce qui marche vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Internet, ça reste quand même une niche. On a l'impression que Twitter fait la pluie et le beau temps avec les politiques, etc. Mais la télé, ça reste quand même l'endroit où le plus de monde regarde. A priori, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Et j'ai l'impression que ceux qui vont regarder les chaînes YouTube, qui Nota Bene, etc., qu'on apprécie, c'est ceux qui sont déjà convaincus, on va dire. Voilà.
C'est vrai, mais Nota Bene, c'est quand même un million de vues par
numéro. Oui, c'est quand même des chiffres sur YouTube qui ne rattrapent pas ceux
de la télé. Mais... Je ne connais pas l'audience de leur émission, mais je pense qu'on doit tourner autour de 4 ou 5 millions dans ces eaux-là. Nota Bene en cumulé, c'est un sacré paquet de
millions. Oui, mais voilà, et tant mieux.
Ouais, et c'est du beau boulot, donc... 99% du temps, du très beau boulot. Et alors justement, c'est un de ceux, moi, quand tu disais que ça a progressé, c'est vrai que ça a beaucoup progressé YouTube sur ça, sur d'abord la qualité technique et ensuite la manière dont ils travaillent, tous, enfin en tout cas ceux que je suis, Manon Bril par exemple, etc., font un vrai, vrai beau boulot de vulgarisation, de vérification avec des historiens spécialistes à chaque fois. Et ils ont une bonne gestion, je trouve, du rapport entre leur métier et celui de l'historien, parce qu'encore une fois, nous, on est savants du savoir des autres. Hein. Moi, je ne fais pas d'histoire. J'en parle, c'est pas pareil. Et je trouve qu'ils le font intelligemment.
Pardon, tu parles de Manon Bril, ça me fait rebondir. À la télé, quand même, il y a des choses, mais c'est sur Arte, donc c'est pareil, c'est un public... Il y a eu la série de Patrick Boucheron, Quand l'histoire fait date, qui était vraiment bien. Et là, j'ai oublié évidemment le nom, c'est Faire l'histoire, je ne sais plus, la série plus récente qu'il fait à partir d'un objet, en fait. Ouais. Et Manon Bril, il participe, elle fait un petit billet à la fin. Et en plus, ça dure 20 minutes. Ils ont parlé de la cape de Roger II, ils ont parlé du chapeau, du costume, je crois, de choses très, très différentes. Et ça, c'est intéressant, déjà, de choisir un objet pour parler d'histoire. Ils parlent beaucoup des sources. Les historiens qui sont invités sont des spécialistes qui travaillent sur des sources. Ils montrent les sources. Et en même temps, c'est très facile à comprendre. Moi, je connais des gens qui ne sont pas historiens et qui ne connaissent pas grand-chose, qui ont accroché à certains épisodes. Voilà, c'est la télé, c'est RT, mais c'est pas mal non plus, le format est assez court.
Ce qui est très bien avec ça, avec cette façon d'aller chercher, je l'ai fait, ça, travailler partir d'un objet, je l'ai fait dans un travail que j'ai fait pour le musée à Saint-Raymond à Toulouse, où on a fait des petites capsules audio qui partaient des objets de l'exposition Visigoth. Et on s'est amusé à choisir des choses à la fois, des objets très luxueux, comme on voit dans ce type d'expo. Il y avait de la joncaille de partout. Et puis, on a pris aussi des tout petits, la perle d'oreille, la boucle d'oreille d'un gamin qu'on a retrouvé dans sa tombe, des choses très quotidiennes. Et ce qui est intéressant avec ces démarches-là, c'est qu'on sort un petit peu de l'histoire bataille, de l'histoire grands hommes, justement, pour aller montrer en fait, ce qui se fait aujourd'hui en histoire, sur l'histoire des mentalités, sur l'histoire des objets, sur l'histoire des animaux. Ça permet de montrer qu'en fait, la production scientifique actuelle, c'est un peu ce que je reproche au roman national ou au récit national, c'est de rester finalement dans son couloir. On revient toujours sur les mêmes choses. Et boum, c'est Jeanne d'Arc, et boum, c'est Clovis, et boum, c'est Vercingétorix. Là, quand on va raconter un vêtement, eh ben, on fait l'histoire autrement, et surtout on montre que les historiens explorent des champs différents de ce que c'était il y a 20, 30, 60, 80 ans, etc.
Merci à tous les trois. J'espère que nous, on est sortis un peu du couloir du roman national aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.